Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition du mois de septembre du Guide de l'auto. Frédéric Mercier qui est ici en remplacement d'Antoine Joubert qui se la coule douce aux îles de la Madeleine.
Oui, c'est rendu une tradition, j'ai l'impression, pour lui, début septembre, ouais, là, d'aller visiter les îles de la Madeleine. Donc,
vous entendez Germain Goyer qui est avec moi, fidèle au poste. Salut Germain.
Toujours là. Bonjour Fred.
Antoine, ben, comme on le disait, va être de retour la semaine prochaine, mais est un petit peu loin pour animer une émission cette semaine. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu qu'il a publié sur ses réseaux sociaux cette semaine une photo de la cour du concessionnaire Chrysler des îles de la Madeleine. Il y avait 3 véhicules.
Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans les commentaires, certaines personnes ont mentionné qu'ils étaient de passage aux îles de la Madeleine au mois de juillet de cet été et c'était les mêmes véhicules.
Ben, ça doit pas, ils doivent pas en vendre un par semaine.
Je sais pas, mais en même temps, t'as pas d'inventaire, donc t'en vends pas, donc t'as pas d'inventaire. C'est un peu la roue qui tourne, donc c'est particulier. Le RAM 2500 a émis 6,4 litres. Il était là, lui, au mois de juillet.
Ça démontre à quel point les concessionnaires américains, surtout, là, c'est Chrysler, ça peut être la même chose pour GM, sont présents, mais présents partout en Amérique du Nord. C'est assez fantastique. Écoute, on fera pas une thèse de doctorat sur la présence automobile aux îles de la Madeleine. Il y a quand même pas mal d'actualités qui s'est passé cette semaine, Germain, dans le monde de l'automobile. Puis j'aimerais t'entendre sur un véhicule qui, je sais, te tient à cœur, le Ford Ranger. Puis il y a une nouvelle édition ressassée du passé. Moi, j'ai lu ça, puis je me suis dit, ah, Germain va être content. Ça fait plaisir aux vieux nostalgiques.
Oui, et même aux jeunes nostalgiques. Donc, pour 2022, ben, on propose une version splash du Ford Ranger. C'est quelque chose qu'on proposait dans les années 90. On revient avec ça. Grosso modo, c'est quoi? C'est un ensemble esthétique et ça se résume à ça. Donc, c'est une édition qui va donner un peu de vie, un peu de personnalité à ce véhicule. Que là, on sait que les camionnettes intermédiaires sont populaires, sont recherchées. Ça va l'aider à se distinguer peut-être des autres. Donc, vous irez voir les photos, ça vaut la peine. C'est un beau clin d'œil au passé. Donc, on a des éléments décoratifs orange et noir sur la carrosserie, des garnitures agencées, des jantes de 18 pouces au fini noir mat. Bref.
Est-ce que c'est juste en jaune? Parce que les photos qu'on a publiées, c'est la carrosserie est jaune. Est-ce qu'on peut avoir le splash en d'autres couleurs?
C'est une excellente question. Effectivement, tout ce qu'on a vu, c'était jaune, des versions jaunes. Donc, voilà, peut-être qu'on l'offrira plus tard dans d'autres couleurs.
Puis en fait, ça n'a même pas été confirmé que ça venait au Canada encore.
Ah ouais,
Il y a des bonnes chances quand même, mais ça a été présenté pour le marché.
Ben, je pense que ce serait effectivement une très bonne idée de commercialiser cette version-là au Canada.
Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Là.
Ben non, exactement.
Sinon, du côté de Toyota, on a confirmé quelque chose qu'on s'attendait à ce que ça arrive, là.
C'est tout à fait logique, c'est une très bonne idée. C'était la moindre des choses de le faire.
On va intégrer une motorisation hybride à la nouvelle Toyota Corolla Cross, donc une version VUS. Qui n'a rien à voir avec la Corolla. Là. On essaie simplement de miser sur le nom Corolla pour
elle a la vendre. Plateforme, elle a la mécanique, elle a d'une Corolla.
La plateforme que toutes les Toyota partagent à peu près. Là. Mais oui, elle a tout d'une Corolla sauf...
L'habillage.
Exact, ouais, c'est ça. Mais on essaie vraiment de miser sur le nom Corolla qui est très fort, qui résonne beaucoup, en proposant
plus
un petit
plus que CHR, je sais pas pourquoi.
Ouais, mais CHR, ça veut rien dire à personne. Toyota nous dit que les deux véhicules vont vivre côte à côte. À mon avis, CHR, dans un an ou deux, c'est sûr que ça saute. Le Corolla Cross, qui est un véhicule qu'on attend assez impatiemment, je dirais. Là, je pense que ça va être un bon vendeur au Québec. Quand Toyota en avait fait la présentation il y a quelques mois à peine, Germain, d'ailleurs, t'étais allé jeter un coup d'œil au véhicule. On avait dit qu'il y aurait simplement un moteur atmosphérique de 2 litres, assez banal, là, 169 chevaux.
Qui est le moteur optionnel de la berline, finalement.
Exact, exactement. Puis là, on a confirmé, en fait, c'est le site Car and Driver qui nous a appris que Toyota avait confirmé qu'il y aurait une version hybride qui s'ajouterait à la gamme quelque part en 2022, possiblement pour l'année modèle 2023. Donc, il va falloir attendre un petit peu plus pour cette version-là, mais ça n'a rien de surprenant. On sait que Toyota veut offrir une version électrifiée de tous ses modèles d'ici 2025. Donc, c'était évident là, que la Corolla Cross allait passer par là.
Et on a bâti notre image de marque, entre autres, chez Toyota, ben oui, avec une version hybride.
Ben oui.
Et dans le segment, tu sais, on a le Subaru Crosstrek qui propose une version hybride rechargeable qui est pas intéressante, là, mais bon, ça, c'est un détail. Mais des petits VUS hybrides, le marché n'est pas saturé, loin de là, là.
Non, loin de là, puis je suis persuadé que ça va bien se vendre. Ouais. Toyota, habituellement, le prix à payer pour avoir la version hybride est assez bas, là. C'est pas des gros sous.
Mais en fait, là où c'est peut-être le moins intéressant, c'est justement avec la Corolla berline, parce que on est très agressif avec la Corolla essence. Les taux d'intérêt sont très intéressants. Et avec l'hybride, ben, ça l'est un peu moins. Mm-hmm. Mais sinon, effectivement, là, et le saut pour passer de la Prius à la Prius Prime, c'est intéressant. Le saut pour passer du RAV4 à essence au RAV4 hybride.
Highlander, même chose.
On se pose même pas la question. Highlander, même chose. Effectivement, c'est un autre bel exemple. Donc, il faut s'attendre que ce soit que sur le plan financier, ce soit intéressant aussi.
Très hâte de conduire ce véhicule-là. Je suis persuadé que ça va faire partie des véhicules très en demande dans les prochains mois. Du côté de Nissan, maintenant, on s'adapte. Hein?
Oui, grosse baisse de prix. On s'adapte sur ce qu'on peut contrôler. Avec la Leaf, effectivement. Donc, une baisse de prix de 6 800 $. Et ça représente exactement le même montant.
C'est un beau petit clin d'œil.
Que la baisse de prix de la Chevrolet Bolt EV.
Ouais.
Donc, ça, c'est même pas subtil pour un seul instant. C'est assez particulier. Donc, de 44 298 $, le prix passe à 37 498 $ pour 2022.
Évidemment, il y a encore des subventions.
Oui. Tout ça demeure. Et là, ben, le reste, parce que ça, évidemment, c'est le prix d'entrée pour une Leaf SV avec une batterie là, de 40 kWh, mais on peut faire le même calcul là, pour les autres versions. Pour donner un exemple, la Leaf S Plus, qui est la plus grosse batterie, qui est probablement ben, la plus intéressante. Là. Ouais. On est avec la batterie de 62 kWh, on est à 40 098 $.
Plus donc, taxes, moins 13 000 $ de rabais. Donc, on s'approche. Franchement, là, on est pas mal dans les prix d'un véhicule à essence du même style, là, Honda Civic ou des trucs comme ça.
Et c'est ce que vise Chevrolet avec la Bolt EV. On ne l'a jamais caché. Et quand on fait les calculs, effectivement, ça se reflète. Cela étant, si je te donne le choix entre une Nissan Leaf ou une Chevrolet Bolt...
Mais écoute, la Bolt à 100%, voilà. Puis c'est ça que je trouve plate.
C'est un produit plus moderne, ben plus adapté, plus complet.
Puis la Leaf, c'est plate parce que Nissan a été pionnier avec ce modèle-là. On était les premiers à offrir un véhicule électrique abordable, grand public. Ça a longtemps été le véhicule électrique le plus vendu, puis quelqu'un qui a
On n'a pas évolué.
Mais non, on s'est assis sur nos lauriers. Puis
et
c'est
ça va
plate.
Tellement vite, le domaine de l'électrique, qu'on ne peut pas rester assis sur ses deux mains plus que 6 mois. Là. Ça
exactement. C'est ce qu'on a fait chez Nissan.
Et il ne faut pas réagir. Là. On ne peut pas se permettre de réagir parce que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, et là, on est passé, effectivement, comme tu l'as dit, de pionnier à finalement.
À suivre de parade.
Oui, effectivement.
On va arriver
avec le Nissan Aria, hein, qui se fait attendre. Puis encore là, ben, le modèle Y, il est là depuis un bon moment. Le Mach-E est là et il se vend énormément.
Ça fait des années chez Nissan qu'on nous dit que ça s'en vient, là, un VUS basé sur la Leaf. Mais visiblement, c'est ben trop long. Puis il y a d'autres constructeurs qui ont décidé de le faire avant eux. C'est plate de voir
donc
Nissan
chez
dans
Ford,
cette position-là.
On a livré déjà des tonnes de Mach-E. Chez Volkswagen, les carnets de commandes d'ID4 sont bien remplis.
Ouais.
Chez Nissan, on traîne un peu de la patte. Sans rien enlever au produit, on ne l'a pas vu, on ne le connaît pas encore. Mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Parlant de baisse de prix, on observe le même phénomène chez Polestar, Fred.
Oui, toujours dans le domaine des véhicules électriques. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va se normaliser. Peut-être la période de recherche et développement des véhicules électriques commence à être amortie. Puis Polestar va nous proposer en fait une Polestar 2, donc la fameuse voiture, bon, rivale de la Tesla Model 3, en version à un seul moteur, donc à deux roues motrices. Contrairement à la Tesla, ça va être deux roues motrices avant et non deux roues motrices arrière.
Oui. Qui peut être un atout intéressant pour le Québec, là.
Oui.
Parce qu'une voiture propulsion au Québec.
Puis on en voit beaucoup des autos électriques propulsion.
Effectivement.
Mais bon, on a quand même des aides à la conduite.
Oui, puis on est loin des grosses berlines américaines des années 80 qui étaient propulsion, là. Mais avec les batteries dans le plancher, ça équilibre beaucoup mieux les masses.
Ouais.
Mais toujours est-il que dans la neige, un véhicule traction se débrouille. Brouille mieux qu'un véhicule propulsion.
Puis outre, évidemment, il y a le rouage qui est à traction au lieu de quatre roues motrices avec cette nouvelle version de la Polestar-là qu'on appelle la single motor, donc un unique moteur. Mais on
pourrait traduire par
aussi...
moteur célibataire?
Célibataire, peut-être, okay. Ouais, on va le mettre sur Tinder s'il veut. mais avec cette version-là, on propose également une meilleure autonomie. On parle de 426 kilomètres et on propose aussi un prix pas mal plus intéressant, un prix qui est juste en bas de 50 000 $, là, 49 000 $ et des poussières. Je trouve ça plate parce que c'est pas assez pour être éligible aux subventions fédérales. Ceci dit, c'est éligible aux subventions provinciales au Québec en ce moment, donc un véhicule qui va avoir droit à 8 000 $ de subvention. Et pendant ce temps-là, les acheteurs de Tesla Model 3, pour la plupart, ont droit à un 13 000 $ de subvention.
Moi, je trouve ça surtout plate pour ceux qui se sont procurés une Polestar 2 dans les dernières semaines, derniers mois, et qui n'ont pas pu profiter de rien de tout ça, là.
Oui, mais c'est vrai pour un paquet de modèles électriques.
Ça
change vite.
Quand on est, entre guillemets, là, un early adopter, un passionné de la première heure, là, je pense qu'il n'y a pas d'expression consacrée en français. Ça fait partie.
En France, ils disent des early adopteurs.
Ah oui, c'est d'accord. Ça, c'est mais ça, ici, on va pouvoir dire des passionnés de la première heure. Donc, oui, ça fait partie du prix à payer.
Exact.
Et si on veut atteindre un volume de vente intéressant, on n'a pas le choix d'ajuster les prix à la baisse. Au même titre que je me mets dans la peau de celui qui a acheté une Nissan Leaf il y a trois mois, je serais déçu en ce moment-là.
Oui, ou celui qui a acheté une Chevrolet Bolt 2021 avant qu'on dise que la 2022 va être 6 800 $ de moins. Mais c'est, comme tu l'as dit, dans le domaine des véhicules électriques, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Puis il faut s'attendre à ce que dans un an ou deux, les prix baissent encore.
Et quand tu achètes ton iPhone...
Si les subventions vont rester.
Oui, ça, c'est une bonne question. Mais comme on a des objectifs très, très, très ambitieux, notamment pour le gouvernement fédéral et provincial, comme on a des objectifs très ambitieux, si on veut les atteindre, il va falloir que ça reste. Et la baisse de prix, c'est comme pour un iPhone ou un objet technologique très, très moderne. Si on l'achète le jour 1, évidemment, ça va nous coûter plus cher que si on l'achète alors que le produit a un an d'âge.